Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à l'écoute de nos programmes. Bonjour Fabrice.
Bonjour Isabelle, bonjour à tout le monde.
Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais au cours d'une vie, nous ingérons en moyenne environ 30 tonnes d'aliments et 50 000 litres de boissons, avec au niveau mondial une alimentation déséquilibrée, responsable d'environ un décès sur 5. Et derrière cette statistique forte, de nombreuses études épidémiologiques qui démontrent désormais combien l'ingestion d'aliments chargés de composés bioactifs est donc très loin d'être neutre pour notre santé.
En effet, malbouffe, contaminants agricoles, additifs alimentaires d'un côté, l'obésité, le cancer ou les maladies cardiovasculaires de l'autre, quelles sont les relations de causalité modifiable? Et on va voir que c'est la bonne nouvelle entre la nutrition et la santé humaine. C'est la question qu'on va poser aujourd'hui à une invitée prestigieuse en la personne de Mathilde Touvier. Elle est docteure en épidémiologie et santé publique, directrice de recherche à l'INSERM. Elle a été professeure invitée au Collège de France sur la chaire santé publique. Elle est chercheuse principale. On va en parler de la cohorte NutriNet Santé.
Dans un second temps, nous resterons dans cette thématique de l'assiette au corps, aux côtés de la nutritionniste Aline Gradzian, une diététicienne que ces questions passionnent et face à laquelle les mots de régime et de diète doivent être prononcés avec précaution. Elle me fait déjà les gros yeux puisqu'elle a la gentillesse d'être à nos côtés en studio dès à présent. Ensemble, nous verrons les pathologies liées à l'alimentation qui sont abordées en cabinet et comment.
Sabienza, l'invité.
Bonjour à toutes les deux et merci d'être à nos côtés.
Bonjour.
Bonjour.
Ravie d'être avec vous. On va commencer par vous, Mathilde Touvier. Alors, ce que nous venons d'affirmer est assez préoccupant. En effet, comment imaginer que ces aliments qui sont précisément le carburant de notre organisme puissent à la fois être responsables, parfois ou mis en cause, dans nos pathologies? Est-ce que vous nous l'expliqueriez avec des mots simples pour commencer?
Oui, alors bon, déjà, la bonne nouvelle quand même, c'est que l'alimentation influence notre santé, mais dans les deux sens. Hein. Donc, il y a effectivement des facteurs de risque qui vont augmenter le risque de développer des cancers, maladies cardiovasculaires, diabète, voire d'autres pathologies, y compris respiratoires, même rhumatologiques. On a plein de liens qui sont démontrés de plus en plus à l'heure actuelle. Mais dans l'autre sens, de nombreux facteurs et comportements nutritionnels aident justement à prévenir, à éviter ces risques de maladies. Quand on s'intéresse par exemple au risque de cancer, on sait que le fait de consommer certains fruits et légumes, des aliments riches en fibres, ou de pratiquer aussi une activité physique, ça fait partie de la nutrition, hein, nous, qu'on appelle ça au sens large, ou encore de consommer modérément des produits laitiers, aide à prévenir différents cancers et au contraire, évidemment, l'alcool, les charcuteries, le surpoids, l'obésité en soi sont des facteurs de risque de cancer. Donc ça peut aller dans des différents sens, avec donc tout un champ possible pour la prévention des maladies grâce à l'alimentation.
Ce qui est intéressant, Mathilde, de Touvier, comme on va passer un petit moment avec vous à étudier ces questions, ce lien ténu précisément entre les aliments et notre santé, c'est définir, vous l'avez un petit peu déjà précisé, ce qu'est la nutrition quand on l'entend avec vos mots de chercheuse. C'est à la fois effectivement ce que l'on mange, mais également l'activité physique et le statut nutritionnel.
Oui, c'est ça. En fait, finalement, ce qui rentre et ce qui sort, hein, pour parler un petit peu clairement, en termes de bilan énergétique, de calories, donc tous les aliments, les boissons, les confiseries, enfin tout ce que nous ingérons au quotidien, ça fait partie de l'alimentation. L'activité physique et la sédentarité, le temps passé devant les écrans, etc. Donc ça fait partie de la nutrition au sens large. Et puis, quand on parle de statut nutritionnel, c'est notre anthropométrie, donc le statut, le surpoids, l'obésité, etc. Ou encore le statut sanguin en vitamine D, en cholestérol, tout ça, c'est la nutrition au sens large.
Mathilde Touvier, est-ce qu'au fil des ans, vous avez constaté que notre alimentation changeait et que cela induisait, sur le plan de la santé publique, des conséquences dans un sens ou dans l'autre ?
Alors, au fil des siècles, de manière plus large, hein, si on a une vision un petit peu plus globale de l'alimentation, oui, il y a eu des évolutions, certaines évolutions vers le mieux et qui sont d'ailleurs accompagnées causées, on l'espère en tout cas, par l'impact des politiques de santé publique, alors que dans les années 50-60, on avait encore l'alcool qui était recommandé à l'école. Là, aujourd'hui, on sait quand même que c'est un facteur de risque de multiples maladies et donc les pratiques ont évolué. Donc, il y a des baisses de consommation, par exemple, d'alcool. d'alcool ou de viande rouge aussi, par exemple. Donc, des choses qui vont vers le mieux et qui sont en ligne avec les recommandations. Et puis, des pratiques qui ont évolué, et notamment du fait de l'évolution de l'offre, hein, du marché alimentaire, où il y a 200, 300 ans, il n'y avait pas d'aliments dits ultra transformés ou d'additifs alimentaires qu'on a vu exploser, hein, avec la révolution industrielle et puis le développement de l'industrie agroalimentaire au siècle dernier et puis encore plus aujourd'hui. Et donc avec des effets sur la santé possibles de ces types d'aliments qui restent encore à mieux comprendre, mais pour lesquels on a des preuves qui s'accumulent sur des problèmes potentiels liés à ce type d'aliments.
C'est vrai que autant il y a des études sur lesquelles vous êtes extrêmement formel, hein, au niveau de votre science, de votre recherche, mais il y a des maladies, vous le précisez également quand on vous écoute sur ces sujets, par exemple l'impact des polyphénols, vous l'avez cité, les contaminants agricoles, où on ne sait encore pas vraiment. Et là, on est loin d'avoir une vraie prise de conscience de cet impact, ou alors c'est déjà quasiment, allez, on va dire, dans les tableaux de chercheurs.
Oui, c'est très important justement d'essayer de bien montrer ce sur quoi on est à peu près sûr de nous. Et donc ça, c'est ce qu'on a mis finalement, qu'on a injecté dans la politique nationale nutritionnelle, le programme national nutrition santé. Hein, c'est la politique de santé publique en nutrition en France. Donc quand on dit les au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, les produits céréaliers complets un par jour, les légumineuses au moins 2 fois par semaine, etc. Donc tout ça, c'est les choses sur lesquels on a des niveaux de preuves forts. C'est là-dessus, c'est grâce à ça aussi, par exemple, qu'on a fait le Nutri-Score, hein, dans lequel on a mis des éléments comme le sucre, le sel, le gras, les fibres, dont on sait, en déficit ou en excès, qu'ils vont impacter la santé. Donc tout ça, c'est ce qu'on sait. Après, il y a tout un champ de recherche et qui s'accumule, hein, de manière assez exponentielle ces dernières années. Il y a vraiment un gros dynamisme de recherche sur les questions notamment de transformation des aliments et l'impact des additifs alimentaires sur la santé, par exemple. On vient encore de publier cette semaine un nouveau travail dans le cadre de l'étude NutriNet Santé montrant des liens entre l'exposition à certains émulsifiants qu'on trouve de manière très courante dans les aliments ultra transformés et une augmentation de risque de diabète de type 2. Donc c'est des choses qui sont encore du domaine de la recherche mais qui s'accélèrent très nettement ces dernières années. Et puis pareil sur l'impact des résidus de pesticides sur la santé. Ou encore, là on parle beaucoup de ce qu'on ingère en termes de quantité, de qualité d'alimentation, mais on pressent aussi des impacts de l'heure à laquelle on va manger, consommer ces aliments, donc l'impact des rythmes circadiens sur la santé. Et là, on est vraiment encore dans le domaine de la recherche, on n'en est pas encore à faire des recommandations, mais c'est vraiment un champ très dynamique et qui permettra de nourrir finalement les prochaines versions des politiques de santé publique dans quelques années.
Et justement, comment est-ce qu'une chercheuse comme vous, à la tête d'un laboratoire puissant en la matière, avec à la fois, et on vous entend aussi quand vous en parlez, des chercheurs, des informaticiens, des développeurs informatiques. Donc d'abord, c'est pluridisciplinaire. Derrière, ces recherches, ce sont des applications avec notamment ces propositions qui sont faites au niveau national, d'avoir une nouvelle orientation alimentaire. Comment est-ce que vous remarquez les choses? Est-ce que ça va vite pour vous? Est-ce que le public a l'air de prendre rapidement en compte ce qu'il faudrait faire quand on peut le faire au mieux? Ou est-ce que c'est très long à faire bouger finalement des masses comme ça qui doivent essayer un petit peu de changer leurs habitudes?
Alors, effectivement, on est quand même beaucoup dans un temps long de manière globale. Déjà, un temps de la recherche, hein, quand on fait une étude, même épidémiologique, comme l'étude NutriNet Santé, avec des résultats, par exemple ici, émulsifiant diabète, elle a beau être extrêmement bien construite, en contrôlant tout un ensemble de facteurs qui pourraient biaiser, etc. Donc, on fait quelque chose, une recherche qui est de très bonne qualité, mais à elle toute seule, ça ne suffit pas pour pouvoir dire, là, on est sûr à 100%, qui a un lien de cause à effet et on peut transférer ça en recommandation. Donc pour établir ces niveaux de preuve en nutrition santé, ça demande de multiples recherches épidémiologiques, mécanistiques, avec des études chez l'animal, sur les cellules, etc. Et puis des expertises collectives pour avoir des recommandations. Donc là déjà, ce sont des choses qui prennent un peu de temps. Ce qui peut ralentir le processus aussi pour faire ensuite bouger les choses au niveau réglementaire, au niveau réglementation, par exemple des additifs ou des pesticides autorisés, c'est aussi que parfois les messages issus de la santé publique, de la recherche, avec même des niveaux de preuves parfois importants, sont très challengés par des lobbies agro-industriels qui ne vont pas forcément dans le même sens que la santé publique. Donc ça retarde aussi parfois les politiques, les processus de changement réglementaire ou autre. Et puis après, au niveau des individus, évidemment, c'est très compliqué de changer l'alimentation. On a quand même, ces dernières années, on trouve des éléments positifs sur la prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur la santé et également la prise de pouvoir des citoyens sur le regard critique qu'ils ont sur leurs assiettes. Ont certainement contribué des applications comme par exemple Open Food Facts, application qui permet de scanner le code barre des aliments, d'avoir tout de suite le Nutri-Score, d'avoir d'autres qualités, d'autres informations sur la qualité des aliments et d'avoir du coup un regard critique et d'influencer du coup les ventes notamment et les achats en l'occurrence des produits. Donc là par exemple, nous aussi depuis l'introduction du Nutri-Score, on a vu, ont été mesurés des reculs de vente des produits D et E et une augmentation des ventes de produits A. Donc sont des choses qui prennent du temps, mais finalement avec ces outils, avec aussi les aspects numériques, avec le logo Nutri-Score ou autre, on a quand même réussi à accélérer le changement de l'offre et la prise de conscience des citoyens de l'impact de l'alimentation sur leur santé.
Lingua en punta de la lingua, cuando dice, cuando un digi. Lingua di tempi infidi, lingua di tempi amici. Lingua di tanto rigiro, per campa un mondo io, per esse là. È mui sogno di te, è mui sogno di te, è mui sogno di te, è mui sogno di te. È mui sogno di te, per un esse vor di ogu. È mui sogno di te, per un per de vilundo. L'amore in tu luogo per esse va. È mui sogno di te, è mui sogno di te, è mui sogno di te, è mui sogno di te. È mui sogno di te, quando è nosi mu lontano. È mui sogno di te, quante distrette di mano. Te piaci in un verano, di ricordo paesano, per esse va. È mui sogno di te, è mui sogno di te, è mui sogno di te, è mui sogno di te. Sogno di te come di pane con pane. E mui sogno di te come d'acqua e vunta. Come di sole a pane, come l'odio di un domane, per esse là. E mui sogno di te, e mui sogno di te. È mui sogno di te, è mui sogno di te, quando è tempo di prudesta. È mui sogno di te, per star ritti in là d'impesta. Vedi e per tene testa, per udolu e per a vesta, per esse là. È mu bisogno di te, è mu bisogno di te, è mu bisogno di te, è mu bisogno di te. È mu bisogno di te, per aver posto in stu mondo. È mu bisogno di te, quanto viaggi e per esse va.
bisogno di te, emu bisogno di te, emu bisogno di te, emu bisogno di te, emu bisogno di te, per esse per esse va, emu bisogno di te, emu bisogno di te.
Sapienza, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
Nous sommes avec Mathilde Touvier qui dirige l'équipe INSERM de recherche en épidémiologie nutritionnelle depuis 2019. Les travaux de votre équipe participent à l'élaboration de recommandations du programme national Nutrition Santé. Mathilde, vous avez pointé du doigt les aliments ultra transformés, possiblement responsables du développement de pathologies. Nous expliqueriez-vous pourquoi ? Quels sont les mécanismes biologiques qui sous-tendent ces relations ?
Oui, on a aujourd'hui, du coup, depuis ces dernières années, plus de 75 études au niveau international qui montrent des liens entre une plus forte consommation de ces aliments dits ultra transformés et des risques d'obésité, de maladies cardio-métaboliques, éventuellement de certains cancers aussi, voire même de symptômes dépressifs. Donc, un spectre large de la santé qui est impacté. On est encore en train là, de creuser hein, tous les mécanismes, les facteurs en cause pour comprendre ces associations. Mais on a là aussi des preuves qui se sont rapidement accumulées ces dernières années, avec une piste notamment qui est celle des additifs alimentaires, dont voilà, sur les plus de 330 autorisés en Europe, vraisemblablement de nombreux qui ne posent pas de problème. Mais pour certains, c'est vrai qu'on a des éléments épidémiologiques, expérimentaux qui s'accumulent et qui montrent des liens possibles, par exemple entre certains édulcorants, certains émulsifiants ou des nitrites qu'on trouve dans les charcuteries et le risque de ces pathologies. Et un impact sur le microbiote intestinal, l'inflammation. Donc, on a des choses comme ça qui sont de mieux en mieux mises en lumière. Et puis, il y a d'autres paramètres de ces aliments ultra transformés qui pourraient jouer, au-delà de leur profil nutritionnel aussi. C'est par exemple les contaminants qui sont créés lors des procédés de transformation ou qui viennent des emballages en plastique ou autres des aliments. Ou encore le fait que pour créer certains de ces aliments, on a une déstructuration complète de la matrice alimentaire des produits de base qui peut jouer sur la manière dont on assimile les nutriments, les composés de ces aliments-là, qui peuvent aussi jouer sur la rapidité d'ingestion et notre encouragement à les surconsommer. Donc tous ces paramètres-là jouent de manière probablement conjointe en synergie pour expliquer ces associations qu'on observe là, de manière de plus en plus consensuelle entre aliments ultra transformés et problèmes de santé.
Aline Gradiani, voulez-vous poser une question ?
Oui, Mathilde, bonjour. Je suis ravie de pouvoir vous parler directement. J'aurais juste voulu vous demander, non sans remettre en cause l'impact du Nutri-Score, justement, je suis la première à dire à mes patients en consultation de s'en servir, mais il y avait eu, il y a quelques temps de ça, quand même un petit débat sur vraiment la finesse du Nutri-Score par rapport, voilà, justement, aux études sur les populations, tout ça, que c'était pas vraiment non plus très, très parlant avec exactitude. Aujourd'hui, on en est où par rapport à ça ?
Alors déjà, enchantée moi aussi, et puis merci beaucoup pour le travail que vous faites sur le terrain.
Merci.
Alors, donc, effectivement, de toute façon, alors, aucun logo nutritionnel n'est parfait en soi. Le Nutri-Score, il est très performant sur le cœur de ce qui a été, voilà, les niveaux de preuve les plus forts en matière de nutrition santé. Donc, effectivement, trop de sucre, pas assez de fibres, trop de sel, etc. Ce sont les paramètres qui ont été intégrés dans le Nutri-Score et dans sa version actuelle. C'est un logo qui est amené à évoluer dans son algorithme au fur et à mesure des avancées de la science. Et donc, il y a eu des nouvelles modifications déjà cette année dans le cadre du comité international de pilotage du Nutri-Score qui permet justement d'affiner cet algorithme pour mieux coller aux recommandations et qui permet d'intégrer des nouvelles connaissances. Par exemple, les édulcorants, les boissons édulcorées sont maintenant pénalisées dans l'algorithme du Nutri-Score et ça fait suite aux travaux sur les édulcorants, sur le Centre international de recherche contre le cancer qui a déclaré l'aspartame cancérigène possible, etc. Donc cet algorithme évolue et continuera à évoluer et nous, on travaille aussi dans le laboratoire sur comment intégrer cette dimension d'ultra-transformation qui est complémentaire à la dimension nutritionnelle dans le Nutri-Score. Donc déjà, au niveau de son format graphique, on a fait une proposition avec soit un bandeau noir marqué ultra-transformé autour du Nutri-Score pour permettre de coupler cette nouvelle dimension. Et puis, on réfléchit pour pouvoir, dans quelques années, proposer aussi au sein de l'algorithme lui-même l'intégration de cette dimension. Donc, il est déjà extrêmement performant au sens où nous, ben voilà, on l'a prouvé dans de nombreuses populations, hein, manger des aliments mieux classés au Nutri-Score, déjà dans sa version là actuelle, c'est associé à moins de risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité et d'autres pathologies. On le fera certainement évoluer à l'avenir avec les nouvelles connaissances de la recherche.
Vous avez prononcé à plusieurs reprises, Mathilde Touvier, le nom de sucre. Ça revient beaucoup, cette question du sucre, y compris dans l'actualité. On considère aujourd'hui que c'est un véritable poison.
Alors, donc le sucre, il en existe de différents types, hein, et je pense que du coup, voilà, au niveau diététique, il y aura des précisions qui pourront être apportées, mais il y en existe effectivement de manière naturelle, hein, dans les fruits, dans certains légumes, dans les produits laitiers. Donc la question de, il faudrait éliminer tous les sucres, non, c'est pas vrai dans la réalité, puisque dans ces aliments-là qui sont recommandés dans les recommandations officielles, bah il y a des sucres. Les sucres qu'il faudrait très largement limiter, ce sont les sucres ajoutés, les sucre des boissons sucrées, voilà, qui la plupart du temps n'ont aucun bénéfice nutritionnel. Hein, quand vous prenez un soda, il y a vraiment aucun intérêt finalement pour la santé. Pour le coup, oui, ces sucres-là sont problématiques. Donc, d'où la recommandation de limiter, donc ce soit au niveau de l'ANSES avec pas plus de 100 grammes par jour, voilà, hors lactose, galactose, ou bien les recommandations de l'OMS. Bon, globalement, c'est surtout sur ces fameux sucres ajoutés, boissons sucrées qu'il faut limiter.
Sabiens, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les si tu le veux, prends, je te le donne. De tes yeux, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne, même si ça fait mal quand t'es pas là.
Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas.
Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, je te le donne.
Je te le donne.
RCFM, Sabiens.
Dernière partie de cette émission, de ce magazine, passée aux côtés de Mathilde Touvier, docteur en épidémiologie et santé publique. Vous avez une grande responsabilité dans l'annonce de certains messages et puis le changement aussi des comportements, Mathilde, des populations à grande échelle. Quelles sont les grandes recommandations qu'il vous tient à cœur de faire passer en termes de prévention nutritionnelle pour ces maladies chroniques ? On a dit 5 fruits et légumes par jour, ça c'est important. Y en a-t-il d'autres ?
Oui, donc celle-ci, c'est effectivement la plus connue. Il y a aussi tout ce qui va être légumineuse, les pois chiches, lentilles, etc., qui ont fait leur entrée dans les recommandations du PNNS, de par leur richesse en fibres et aussi en protéines végétales. Donc là, c'est au moins 2 fois par semaine.
Alors, qui faisait partie de nos régimes d'antan, Mathilde, et qui progressivement ont cédé la place à d'autres aliments moins intéressants.
Oui, tout à fait. Et puis avec un esprit, enfin dans l'esprit du public, le côté ça fait grossir. Enfin voilà. Donc alors que ce sont vraiment de très bons aliments d'un point de vue nutritionnel, vraiment à favoriser et qui peuvent aider aussi dans la démarche de réduction de la viande, puisque voilà le fait de leur richesse en protéines végétales, c'est aussi un atout là de ces aliments. Donc il y a ces aspects-là. Il y a la limitation de la viande rouge, donc pas plus de 500 grammes par semaine. Les charcuteries, pas plus de 150 grammes, notamment par rapport aux problématiques liées au cancer colorectal. Il y a aussi la recommandation bon poisson, 2 fois par semaine, dont un poisson gras. Et puis le fait de limiter tout ce qui va être alcool, boissons sucrées, les aliments mal classés au Nutri-Score ou les produits ultra transformés. Les produits céréaliers complets, donc les fibres très importants, on est très en déficit en France de consommation de fibres, alors que ça protège plein de maladies. Choisir plutôt du pain complet, pâte complète, etc., riz complet quand on a le choix, et au moins un aliment complet par jour. Et puis, les produits laitiers, on est dans les recommandations actuelles chez l'adulte à 2 par jour, avec des recommandations également plus qualitatives sur le fait de privilégier autant que possible les aliments bio, par exemple, notamment pour les produits végétaux, avec derrière toute la question de l'accessibilité économique. Hein. Tout ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Après, justement, il faut faire bouger les choses d'un point de vue politique et offre pour que tout ça soit accessible à tout le monde et que ça ne reste pas seulement un vœu pieux.
Et puis dans une société qui va très vite, qui est très très connectée, où tout le monde est concerné, forcément quand on parle d'alimentation, on mange tous, en tout cas je l'espère, le plus aisément possible. Comment faire pour aller trouver la bonne information, Mathilde ? Parce qu'on entend tout aussi, et avec les réseaux ça se développe, il y a plein de bonnes ou de mauvaises idées qui se diffusent, et vous la scientifique évidemment qui connaissez la réalité des choses, pourriez avoir comme ça une recommandation pour aller chercher la bonne information pour le grand public ?
Oui, c'est vraiment une question très importante. La nutrition n'est pas le seul champ touché par ces problèmes de fake news en santé de manière générale. Mais c'est vrai que c'est un domaine particulièrement concerné parce que tout le monde mange et tout le monde a un avis. Donc, on voit un petit peu tout et n'importe quoi. Il faut toujours, de manière générale, se méfier, regarder la source, avoir un regard critique sur la source. Donc, c'est sûr que des sites fiables comme celui de mangerbouger.fr, qui est le site du PNNS, va relayer des informations sur les recommandations, des idées de menus, des conseils personnalisés aussi pour essayer de mieux manger. Les sites fiables de l'ANSES ou bien de l'INSERM ou autre, ou de l'INCa par exemple, vont permettre de donner des recommandations. On a aussi sur tout ce qui est nutrition cancer, le réseau NACRE, nutrition, activité physique, cancer, recherche, avec plein d'outils aussi pour les professionnels de santé, diététiciens, diététiciennes, médecins, etc., qui veulent donner des infos à leurs patients. Il y a des flyers, des outils très fiables. Et puis après, en termes d'application, par exemple, voilà, Open Food Facts, c'est une application gratuite que vous pouvez télécharger et qui donne plein d'infos sur les aliments dès que vous scannez le code barre, ou vous pouvez même comparer des aliments entre eux d'une même catégorie. Donc il y a plein de moyens de trouver de bonnes informations, mais c'est vrai qu'il faut se méfier des sources.
Mathilde Touvier, on a été ravis de partager ce moment en votre compagnie. Grand merci d'avoir été disponible aujourd'hui au micro d'RCFM et à une prochaine fois, j'espère.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Faisons le plein de connaissances dans Sabiens sur RCFM.
Morning light, my mother said, when you gonna leave?
Sapiens, chaque semaine sur RCFM.
Nous étions avec Mathilde Touvier, docteur en épidémiologie et santé publique, qui était hier chez vous.
On ne va pas le dire, qui a donné une superbe conférence hier à Galet. On était content de l'avoir aujourd'hui, ici au micro.
Autour de la nutrition et des maladies chroniques, nous rejoignons dans notre deuxième partie Aline Gradiani, qu'on a déjà entendu s'exprimer aux côtés de Mathilde Touvier tout à l'heure. Salut.
Oui, bonjour.
Et avec vous, on va continuer finalement dans cette lancée pour évoquer les pièges qu'il faudrait éviter côté alimentation. Je sais que quand on parle summer body, monodiète et régime draconien, ça vous hérisse le poil.
On commence à me connaître, oui, effectivement, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
Oui,
tout à fait.
Il faudrait instaurer un juste équilibre alimentaire en fonction de ses goûts.
Bien, alors oui, c'est justement dit, puisque tout à fait, moi en consultation et mes autres collègues, j'imagine, j'ai aucun intérêt à dire à mes patients de manger des brocolis toute la journée s'ils n'aiment pas ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une alimentation équilibrée, il n'y a rien de restrictif. C'est-à-dire que vraiment, moi, ma lutte quotidienne sur le terrain, comme a très bien dit Mathilde, c'est de faire comprendre aux gens qu'on peut manger vraiment de tout, mais on mange correctement, c'est-à-dire on mange correctement niveau quantité et on mange correctement niveau fréquence. Si vous allez manger un petit carreau de chocolat toute la journée, non, justement pas toute la journée, une fois par jour, excusez-moi, si c'est votre petit plaisir de prendre à la fin du repas un petit carreau de chocolat une fois par jour, même deux petits, qu'importe, où est le mal ? Il n'y a aucun souci à ça. Maintenant par contre, si sur la journée, vous allez rajouter, comme a dit justement tout à l'heure Mathilde, des boissons sucrées. Si vous allez rajouter des viennoiseries le matin, là, ça va et autres, hein, des produits ultra transformés, là, évidemment que ça pose problème. Mais si vous mangez normalement et que tous les jours, vous désirez prendre votre carreau de chocolat, mais il n'y aura aucun souci à ça, vous voyez. Donc, il n'y a aucun bénéfice d'entamer un régime restrictif à dire tel type d'aliment, ça, je vais le sortir, ça, je vais le bannir parce qu'il faut que j'aille vite. Alors ça, c'est le pire. Mes patients qui arrivent en 10 ans, il faut que ça aille vite. Mais ça n'ira pas vite. On a tous un métabolisme. On est tous différents. On est tous génétiquement programmés. Sur ça, personne n'y peut rien parce que c'est la loterie.
On a des prédispositions.
Évidemment, c'est bien pour ça que c'est d'autant plus important d'adopter un régime équilibré puisqu'on a tous des prédispositions génétiques. Voilà, si puis en consultation, les médecins, dans mon travail, la nutrition, on demande toujours les antécédents familiaux puisqu'on est évidemment plus prédisposé, même si ce n'est pas obligatoire, hein, d'avoir un terrain où on peut basculer facilement dans l'obésité si nos parents ou des parents proches dans notre famille où il existe déjà un terrain sur l'obésité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il n'y a aucun intérêt à se dire demain, je ne vais plus jamais manger tel type d'aliment. Non,
ou
ça, c'est pas possible.
Ou alors être fataliste en se disant, ou alors je suis être fataliste d'une famille où le surpoids
mais
est tout ancré à fait depuis des générations.
Mais tout à fait.
C'est fichu pour moi.
Mais absolument, absolument. Après, vraiment, respectez-vous, respectez votre corps. On a besoin de tout. La nature est bien faite. Vraiment, on nous donne tout ce qu'il faut. Manger de tout, correctement. De tout correctement. Le PNNS est très bien fait, comme l'a dit Mathilde. On vous explique tous, voilà, des sources fiables. Et merci vraiment d'avoir posé cette dernière question. Où peut-on trouver des sources fiables ? Donc, vous avez tous ces sites-là sur l'ANSES, sur le PNNS, où on vous donne vraiment les grandes bases. La plus belle, évidemment, oui, c'est 5 fruits et légumes par jour. Alors, oui, quand on entend ça, on rigole, c'est un peu redondant. Mais c'est la base. Quand vous allez mettre dans votre assiette des légumes, de la protéine. Alors, la protéine, c'est les œufs, la viande, le poisson et également les produits laitiers et également les légumineuses qui sont très, très riches en protéines végétales. Donc, de la protéine pour vos muscles, pour le maintien de vos muscles. Des féculents, arrêtez d'enlever les féculents. C'est la pire des choses à faire et surtout de les sortir le soir en pensant « mais je ne prends pas les féculents pour maigrir ». Vous allez payer plus tard. Vous allez payer plus tard puisque c'est ça qui nous régule la glycémie et qui nous permet d'être stable sur la journée et qui nous permet d'avoir notre énergie quotidienne. Donc, vous allez payer plus tard, ça.
C'est là où c'est intéressant d'avoir une nutritionniste, une professionnelle à nos micros pour expliquer aussi aux gens qui n'oseraient pas franchir le pas, c'est-à-dire qui seraient mal dans leur corps, qui oui. ont un vrai déséquilibre et qui le savent, qui pourraient être tentés d'aller regarder ce qui se fait en termes de régime, en termes de propositions sur le net,
rapide,
dans les bouquins ou ailleurs. Oui. Alors que vous pouvez avoir un véritable impact sur justement prendre le temps, avoir quelque chose de particulier à la personne qui vient vous voir.
Parce
que ce qu'on peut dire n'est pas forcément adapté à la morphologie ou à l'histoire génétique de chacun.
Bien sûr.
On souligne peut-être cette importance de franchir parfois la porte d'un cabinet pour qu'il voudrait vraiment aller mieux.
Tout à fait. Alors, c'est compliqué, c'est ce que je dis à chacun de mes patients. Le plus dur, vous l'avez fait, c'est de franchir la porte. C'est tout à fait ça. Une fois que la porte est franchie, et puis alors vraiment, faites-le pour vous. C'est-à-dire, ne venez pas dans un cabinet diététique parce que vous voulez faire plaisir à votre maman qui vous dit toute la journée, il va falloir que tu fasses. Non, soyez prêt à le faire. Mais par contre, oui, une fois que c'est fait, l'accompagnement diététique, on prend le temps de faire les choses. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, demain, dire, taper sur l'épaule d'un de mes patients et dire, allez mon grand, tu ne vas plus jamais boire de coca de la journée. Si ce patient en a bu toute sa vie. On rééquilibre, et dans rééquilibre, il y a la clé, la notion, c'est le temps. La clé, c'est vraiment le temps. Donc, on va peut-être commencer par dire, bon, écoutez, aujourd'hui, je vous prends vraiment l'exemple le plus flagrant du coca, hein, ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, vous ne buvez que du Coca-Cola sur votre journée. L'unique boisson principale, c'est le coca. Ça existe. Hein. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut déjà essayer d'intégrer un petit peu d'eau? Et on avance tranquillement, voilà. Ne pensez pas que ce soit restrictif, ne pensez pas que ce soit quelque chose de brutal. L'accompagnement diététique existe, les suivis existent, et c'est bien pour ça, toutes les 3 semaines, tous les mois, c'est bien pour cela, on prend le temps de faire les choses. Hein.
J'allais vous dire que la brutalité, du point de vue de l'organisme,
c'est le pire.
Est assez mal vécue.
C'est le pire.
C'est-à-dire qu'un organisme qui se sent privé va surréagir.
C'est tout à fait juste, vous allez faire pire, c'est-à-dire que...
Stocker.
Mais ça sera pire, c'est-à-dire que si vous avez le mental, moi j'ai plein de patients, hein. Encore une dame hier qui est arrivée avec un mental d'acier, elle mange aucun féculent de la journée, je ne sais même pas comment elle tient debout. Mais là, cette dame, la pauvre, à la fin toute la journée, elle a un mental d'acier, elle ne mange rien d'autre. Mais à un moment donné, elle va lâcher les chiens, cette dame, c'est obligé. À un moment donné, elle va aller mettre, excusez-moi, hein, je parle vraiment, foutre la tête dans le frigo et manger tout ce qui passe. C'est obligé. Alors que quand on prend chaque point à bras le corps et qu'on se laisse le temps à dire voilà, là, il va falloir réintégrer les légumes. Parce que pareil, il y a des gens qui n'en mangent pas du tout. Mais moi, je n'ai aucun intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous faire manger des brocolis toute la journée si vous n'aimez pas ça. Attendez, mangez, qu'est-ce que vous aimez ? Même quand je travaille avec les enfants, je leur dessine l'assiette et je leur dis « Alors, qu'est-ce que tu aimes ?» Et c'est pas grave, s'ils aiment que les carottes, bon, eh bien, on va commencer avec les carottes. Et après, au fil du temps, on fait goûter d'autres choses et on habitue comme ça, vous voyez. Mais c'est vraiment prendre le temps de faire les choses de manière progressive. Il faut pas être brusque, hein.
Avec des choses complémentaires, parce qu'on en parlait tout à l'heure en définissant quasiment les termes, la nutrition qui comprend l'aliment que l'on ingère, mais également l'activité physique, et ça aussi,
absolument.
Vous le recommandez.
Oui, alors, mais ça,
et
c'est...
Et même l'heure des repas, apparemment. Hein,
Des repas, c'est très certainement, et puis là, je ne vais pas parler pour une docteure, pour une chercheuse, hein, mais oui, le cycle circadien agit évidemment sur la journée. Après ça, vous voyez, il faut s'adapter à tout le monde. J'ai beaucoup de patients qui travaillent la nuit. Là, à un moment donné, on s'adapte à la vie des gens. Hein, voilà. Mais par rapport à l'activité physique, évidemment, évidemment qu'il faut en faire un petit peu, mais c'est toujours pareil. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « Bon, allez mon grand, hop là, on va courir un marathon demain. » Non, allez déjà marcher un petit peu. Voilà, tranquillement, vous finissez votre repas ou quand vous en aviez envie sur la journée, on met sa paire de baskets, on va faire le tour du lotissement, on va faire le tour du village, un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis vous allez voir que à force, vous allez y ressentir les bénéfices et vous allez y prendre goût. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça sera un quart d'heure tous les 3 jours et demain, ça sera plus.
Lavora e ha un cappello piccolo così. carezza. E più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
Giù c'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare. E più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
Sapienza, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
Nous parlons dans Sapienza nutrition et santé avec, pour cette deuxième partie, Aline Gradiani, qui est diététicienne et qui essaye de rectifier le tir dans nos comportements, Aline, et de tordre le cou à certaines idées reçues.
Est-ce que la question de la rapidité, justement, avec laquelle on ingère aujourd'hui les choses, avec des journées qui vont très très vite parfois pour ceux qui ont une
avec
activité forte,
de satiété.
Oui. Est-ce que c'est important de manger lentement,
c'est-à-dire
au-delà de ce qu'on
important.
Mange, la rapidité ou pas avec laquelle
Masquer,
on mange.
Tout à fait. Alors là, ça, bien sûr. Ça, c'est une très très bonne question parce que vous voyez la digestion, mais 20 minutes à s'opérer. Je vais très vite là-dessus. La digestion, elle est chimique et mécanique. C'est des histoires de sécrétion et c'est des histoires d'estomac et de boyaux qui vont se tordre, pour faire vraiment au plus simple. Pour cela, pour toutes ces sécrétions, toutes ces hormonales aussi, il y a des hormones qui sont sécrétées, des hormones qui vont nous ouvrir l'appétit, des hormones qui vont nous couper l'appétit. Pour que tout ça se fasse et que tout ça monte au cerveau à dire « bon, maintenant tu n'as plus faim », il faut au minimum 20 minutes. Ce qui fait que quand, et mais ça c'est la société qui l'impose, hein, ça c'est vraiment le truc à dire « vite, vite, il faut que j'aille travailler, je gobe le truc et je retourne travailler ». Donc ça malheureusement, c'est la société actuelle. Mais quand on gobe ce qu'on mange, qu'on prend même pas le temps, qu'on n'a même pas la réflexion de dire « bon, mais là, en fait, je suis en train de manger », parce que combien sommes-nous à manger devant l'écran de l'ordinateur, hein ? Eh bien, vous auriez tendance à vous resservir pour rien, à vous resservir inutilement, puisqu'en fait, vous n'êtes pas à satiété. Vous ne donnez pas à votre corps le temps de le ressentir. Ça, première chose. Et aussi, vous pouvez vous faire mal. C'est-à-dire que la digestion se passe sur... j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais en gros, oui. Plus on mange lentement, plus on est détendu. Et mieux c'est pour nous pour digérer et pour justement éviter de se resservir. Voilà, tout simplement. Donc oui, au minimum, 20 minutes, c'est très acceptable. Si vous mettez 30 minutes pour manger, c'est encore mieux. Et alors, les patients qui mettent une heure, ou les gens hein, en général, pas forcément mes patients, tout le monde, si vous mettez une heure pour manger, alors en Koumei, vous vraiment prenez le temps de manger, d'apprécier votre repas, de partager le moment, quoi. Voilà.
Une dernière petite question. On a parlé des aliments colorés, antioxydants, oui. Des légumes, des légumineuses, des protéines. Plutôt cru ou cuit ces aliments ?
Alors non, l'absolu, là si je fais la diète un peu chiante, il faudrait du cru et du cuit en même temps. Bon, là écoutez, sincèrement, moi pareil, je suis la première à dire à mes patients en consultation, pour aller vite par exemple, prenez une endive, une endive ou une salade ou une tomate, vous la coupez si vraiment vous n'avez pas le temps pour votre apport en fibres, puisque les légumes sont très riches en fibres, hein, c'est ce que disait Mathilde tout à l'heure, l'importance des fibres dans l'alimentation. Si vraiment vous n'avez pas le temps, prenez une endive, vous la coupez, ça vous fait votre légume. Après, évidemment, demain, vous pouvez me faire une ratatouille, on la prend. Hein, voilà. Hein. Et alors, encore mieux, si vous faites la ratatouille en plat
précédé de l'endive en entrée.
Alors là, on est vraiment 20 sur 20. Voilà, on est au paradis.
On entend souvent parler de la diète méditerranéenne. Oui. Diète au sens de régime, hein, diète au sens de manière de manger. Je reprends l'étymologie grecque.
Hein. Régime méditerranéen.
C'est vrai qu'il y a des études étonnantes qui montrent qu'ailleurs dans le monde, on pratique le régime méditerranéen, qu'on ne pratique quasiment plus chez nous. Pour autant, il aurait été quasiment naturel dans ce type, évidemment, de biotope. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez recommander aujourd'hui comme équilibre journalier ?
Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est l'assiette, c'est une petite portion de protéines, beaucoup de légumes et un petit peu de féculents. Hein. Et là, et puis alors nous, vraiment, on est bien placés. On est sur
l'huile d'olive.
L'huile d'olive, évidemment. Nous, on a tout. Nous, alors, mieux que ça, on ne peut pas faire. Le poisson, on a le sanglier pour la viande modérée, hein, viande rouge, attention. Mais enfin, non, là, je m'agagne un petit peu. Mais vraiment, on a tout à portée de main. L'huile d'olive, évidemment.
Mais on s'en est éloigné.
Mais on s'en est éloigné. C'est tout à fait. Mais ça, c'est ce que disait tout à l'heure Mathilde, c'est par rapport à l'industrialisation où on a développé des produits ultra transformés pour aller super
vite. Au rythme de vie aussi. Hein.
C'est ça, il faut toujours aller vite, vite, vite. Et dites-vous quelque chose, hein, c'est que les agro-industriels ne sont pas là pour nous nourrir, hein, ils sont là pour faire de l'argent, vraiment, comprenez-le. Donc, plutôt que de prendre un plat préparé micro-ondable, faites des choses simples. Les plats préparés micro-ondables, même si c'est, je ne peux pas citer de grandes marques, mais tout le monde voit la marque qui fait maigrir, qui ont sorti des plats là, qui sont pas trop mal notés en Nutri-Score d'ailleurs, mais vous n'allez pas avoir assez, c'est tout petit. Au-delà, même si c'est bien noté en Nutri-Score, il n'y a pas assez. Alors franchement, ce que je dis à mes patients pour aller très vite, mais prenez-vous deux tranches de jambon, une endive, faites-vous cuire un peu des pâtes, terminé, vous avez mangé, vous voyez, avec un petit bout de pain, du fromage, un yaourt ou un frit, ou voire les deux si vous avez faim. Terminé. Si vraiment vous voulez aller vite, plutôt que de manger tous ces plats industriels qui sont bourrés de tout et de n'importe quoi, manger du brut, mais on peut faire très simple pour aller vite, hein. Vraiment, hein, je suis la première.
Vous n'êtes pas obligée de passer des heures en cuisine.
Ah, mais pas du tout. Et pourtant, je suis diététicienne. Après, j'aime bien cuisiner, bien sûr, quand j'ai le temps, je le fais volontiers. Mais moi, mon repas de prédilection, quand je suis vraiment à la bourre, j'ouvre une boîte d'asperges, une boîte de sardines, un peu de pain, un peu de fromage, un yaourt, terminé. Et vous voyez, et j'ai mangé quand même, hein, voilà. Hein. Et par contre, j'ai mangé des produits sains, des produits bruts, voilà.
C'était un plaisir de vous avoir toutes les deux à nos micros aujourd'hui. Merci beaucoup, Aline Radiani, d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir aussi d'être à vos côtés, Fabrice.
Vous mangez des asperges et des sardines, vous devez aller vite ou pas ?
Les sardines, je ne suis pas très fan.
Moi, non plus, moi c'est l'odeur qui me...
En revanche, les asperges, j'adore. Ben, moi, mais comme j'adore cuisiner, ben, je ne suis jamais à la bourre parce que j'anticipe pour le coup.
Super.
Oui, non, ça c'est impératif. Je ne mange pas pour me nourrir. Ça, c'est... Ça
on peut... Je sais qu'on peut débarquer n'importe où, tester, mais je crois savoir qu'on peut débarquer n'importe quand chez vous. Il y a
ça se dit, ça se dit. Même à 50, une petite armée,
c'est pas vrai.
Une grosse équipe de basket. Oui, tout à fait. Je fais concurrence à de grandes firmes agroalimentaires en termes de stockage. J'ai dû faire, la guerre dans une autre vie, probablement, manquer. Je me soigne, hein, messieurs, dames. Bon. Je vous remercie en tous les cas d'avoir été à nos micros.
C'est toujours un plaisir.
Ce fut un plaisir partagé. Merci à Doumé Mourati pour sa patience. Il nous a accompagné.
Il n'a pas besoin de régime, hein. Un corps de rêve.
Un corps de rêve.
Pas comment il fait, mais il a besoin de rien.
Ah bah, il est jeune, ma foi, hein, ouais. Ça aide. Hein. Allez, excellente journée à l'écoute de nos programmes. Vous restez avec nous sur RCFM et vous recommandez ce podcast, si vous l'avez aimé, à votre entourage sur bleurcfm.fr.